midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. On parle de littérature entre midi et 13h le dimanche sur Beurre FM. Mon invité est Richard Malka, bienvenue.
Merci.
On est en train Bonjour. De faire les essais de micro, on vous a demandé de vous présenter. Présentez-vous, Richard Malka.
Avocat, scénariste de bande dessinée et tout nouvellement auteur d'un roman.
Un premier roman qui s'appelle Tyrannie aux éditions Grasset. Il y a énormément de manipulateurs dans votre roman. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes entouré de gens qui sont des manipulateurs ?
Non, parce
que dans votre roman, tout le monde manipule tout le monde. Hein.
Mais tout le monde manipule tout le monde dans la vie.
C'est non.
Mais si, c'est les interactions humaines, ça. On cherche tous à se faire aimer, on cherche tous à obtenir quelque chose, à présenter le meilleur de soi, à plaider sa cause ou celle des autres. On est tous dans une interaction où, ça c'est l'animal qui est comme ça. On essaie de faire en sorte que l'autre nous donne ce dont on a besoin.
Mmh. Vous dites qu'on essaie de se faire aimer, pourtant l'avocat qui est le héros de votre livre qui s'appelle Raphaël, lui dit qu'on choisit pas ce métier pour être aimé. Que finalement, le métier d'avocat, c'est pas la bonne chose pour être aimé.
C'est vrai, parce qu'on est dans la transgression, on défend des causes qui souvent ne sont pas comprises, on est seul, on est parfois seul contre tous, donc c'est pas le meilleur métier pour être aimé. Néanmoins, ça veut pas dire qu'on n'en souffre pas. C'est ambivalent. D'un côté, on aime bien provoquer, de l'autre, tout le monde a envie d'être aimé.
Il n'est pas très sympathique, votre avocat, finalement, votre héros.
Ah en tout cas, on pourra pas me reprocher d'avoir été indulgent à son égard.
Ouais.
Il a des côtés très attachants, et puis d'autres où on a envie de lui foutre une paire de claques, oui, c'est vrai.
Mm-hmm. C'est quelqu'un qui était issu de l'immigration, alors il a changé son nom, pourquoi
ouais. Pour se faire accepter, pour s'intégrer, parce que il le fait à la demande de ses parents, qui sont absolument obsédés par le fait que leur fils s'intègre. Alors tout ça, je ne le raconte pas, mais c'est dans mon esprit.
Non,
ça
vous le racontez pas parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle, voilà. Voilà. Mais on sait simplement qu'il est fils d'immigré.
Absolument.
Voilà, et qu'il a changé son nom.
Ouais.
Oui. Et que finalement, il n'a pas résisté.
Parce que vous avez bien compris qu'il y a une espèce de parallèle entre moi et cet avocat. Et effectivement.
Vous en êtes beaucoup défendu. Alors que quand on le regarde, effectivement, il y a beaucoup de.
Je ne m'en suis pas défendu. J'ai toujours dit, oui, bien sûr qu'il y a un écho, il y a une résonance. Après, c'est pas moi. Mais c'est quand même. Et puis, il y a de moi dans absolument tous mes personnages. Mais effectivement, moi, j'ai vécu la volonté absolue, féroce de mes parents. De nous voir, nous intégrer complètement, qui sont immigrés, qui sont pas nés français.
Mais du Maroc, voilà.
Qui ont été naturalisés, et leur obsession, c'était que leurs enfants soient plus français que les Français, en gros.
D'accord, mais vos parents vous ont demandé de changer de prénom ?
Non, mais ils m'ont donné un prénom pas plus
Richard.
Français, c'est impossible. Très loin de mes origines.
Il est à l'image d'un arriviste. Alors c'est marrant parce que c'est un timide déjà. Est-ce que les timides font de bons avocats ?
Parfois oui, parce qu'on se transcende dans une salle d'audience. Parce que là, il y a plus de timidité. Là, on est un peu dans le théâtre, donc on peut aller au-delà de soi. Et je connais des personnes très taiseuses. Très introverti, qui se révèle complètement dans une salle d'audience. Donc c'est pas antinomique ça, c'est pas contradictoire.
C'est un solitaire,
oui.
C'est un gars solitaire,
ouais, solitaire, ouais.
Qui l'assume. C'est quelque chose que, par exemple, c'est quelqu'un qui veut pas travailler en équipe.
Non, il vit dans une distance à l'humanité. Il est un peu loin. Il flotte un peu au-dessus de tout ça. Donc oui, c'est un personnage un peu étrange, sympathique et antipathique, mais avec une vraie distance à l'égard des autres. Il se protège. Il y a une muraille.
Alors il aime pas les gens.
C'est pas qu'il les aime pas. Il a une vision utilitaire des gens.
Ouais.
Les gens l'intéressent pour ce qu'ils peuvent lui donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Il est plutôt bienveillant. Sauf que la limite, c'est ses intérêts personnels.
Oui, puisqu'en fait, finalement, vous dites que c'est un philanthrope intéressé.
Voilà. Bon. Voilà, il est plutôt pour faire du bien, le bien autour de lui, mais à condition que ça ne lui nuise pas. Et il attend toujours quelque chose des autres, en l'occurrence.
Là où ça se complique, c'est que vous dites de lui que c'est un menteur et que c'est une seconde nature qu'il cultive depuis l'enfance. Et souvent, les avocats ont la réputation d'être des menteurs de talent.
Oui, mais on est un bon menteur quand on est au plus proche de la vérité. Sinon, ça marche pas. Donc, il faut partir de la vérité et puis, l'arranger un peu, la présenter sous son meilleur jour. Mais il faut jamais totalement écarter la vérité et la réalité, parce que sinon, on ne pénètre pas le cerveau des personnes qui sont en face et que l'on veut convaincre.
Oui, mais d'un autre côté, il admet que un client puisse mentir à son avocat et ne pas tout dire à son avocat. Parce que souvent, il y a cette illusion qu'un client doit dire toute la vérité à son avocat.
Absolument pas. Un client a le droit de mentir. Alors, ça choque les gens quand on dit ça. Mais quand ils se retrouvent clients eux-mêmes, alors là, ça les choque plus du tout. Tout le monde ment. En plus, quelle est vraiment la vérité? Chacun a sa vérité. C'est très relatif. La justice n'est pas là pour dire où est la vérité. Elle est pour dire le droit. C'est autre chose. La vérité, c'est un concept complètement subjectif.
Ça, c'est intéressant, finalement.
C'est impossible. Ce qui tient une société, ce qui fonde la démocratie, c'est le droit, c'est pas la vérité. La vérité, précisément, on tombe dans la tyrannie, dans la dictature. Ça, c'est totalitaire, la vérité. S'il y a une vérité, alors il y a plus de contestation possible. Il y a plus de contradictoire, il y a plus rien, il y a plus de débat. Donc on n'est pas dans la vérité. Ce qui distingue la tyrannie de la démocratie, et c'est Cicéron, d'ailleurs, qui l'a dit il y a bien longtemps, c'est le lien de droit. Parce que le peuple lui-même, et c'est ce qu'il disait, peut être la plus féroce des tyrannies.
Et là, vous retombez sur le titre de votre...
S'il n'est tenu par le lien de droit.
Sur le titre de votre livre. Pour en venir à cet avocat, Raphaël Constant, ouais, qui est quand même le héros de votre livre, puisqu'on va le suivre pendant 25 jours, 25 jours que vont durer ce procès d'assises, 25 jours. Et pour vous, finalement, on voit que depuis quelque temps, ça vous amuse de décoder les coulisses de la justice, d'expliquer aux gens comment ça se passe, ce qui peut se passer dans la tête d'un avocat, ce qui peut se passer dans la tête des juges, des jurys. Pourquoi ?
Ah bah c'est fascinant. C'est un théâtre humain d'une intensité folle. Je ne connais pas d'endroit où la vie des gens se joue en public. À ce point-là, d'ailleurs, il y a des spectateurs qui viennent dans les salles d'audience, qui passent leur journée. C'est d'une dramaturgie hallucinante, c'est passionnant, on est happé par l'intensité de l'audience. Donc j'ai voulu, sur 25 jours, raconter comment les juges vivaient ça, comment les jurés vivaient ça, quels étaient les enjeux pour les jurés, et puis qu'est-ce qui se passait dans la tête des avocats, leur stratégie, leur jeu, leur coup de théâtre, les rebondissements. Comment on massacrait des témoins, comment les témoins répondaient, tout ça, effectivement, c'est un monde complexe. Donc, c'est vrai que là, il y a une valeur ajoutée au fait d'être, de faire partie.
Parce que vous êtes dans la tête, vous êtes dans la tête
de tous les acteurs du procès, y compris de la greffière, des gendarmes, et on les voit apparaître au cours de ces 25 jours. Et j'essaie de mettre le lecteur dans la tête des jurés au moment où il faut délibérer sur le crime commis, qui est un crime politique, qui est un crime commis au nom de la liberté, parce que la personne qui est jugée est un réfugié d'une tyrannie qui s'est installée quelque part dans le monde.
C'est ce qu'on croit.
C'est ce qu'on croit, mais ça, on ne va pas révéler.
Non, c'est ce qu'on croit. C'est ce que vous nous faites croire dans votre livre. Ouais. À quel moment la fin s'est imposée à vous ? Est-ce que vous saviez dès le départ que...
Alors j'ai écrit
vous allez retomber sur vos pieds ou
pas forcément. J'ai écrit ce livre vraiment sans avoir de structure en tête, au fil des phrases qui s'écrivaient les unes après les autres. C'est un premier roman, donc j'ai appris aussi comment on faisait, parce que c'est très différent.
Et comment on apprend à écrire un roman ?
Alors j'avais l'expérience du scénario de bande dessinée.
Mais c'est pas la même chose, parce que là, ça va vite, c'est...
Absolument. Ouais. Mais en termes de construction, c'est une très très bonne école. Après, il faut apprendre à écrire le roman, et ça, c'est un exercice très différent. On y passe 3 ans. Voilà. On y passe 3 ans, et on a un éditeur qui vous aide, qui vous coach, et puis on a lu, et puis on a aussi ça en soi. Mais c'est un travail monumental. On ne peut pas imaginer le travail que ça représente avant de l'avoir fait.
Mais la fin, alors à ce moment-là, la fin, vous l'aviez pensé dès le début de l'écriture, parce que la fin va surprendre, enfin surprendre le lecteur. Ouais. Donc finalement,
elle m'a surpris moi-même. C'est pour ça qu'elle fonctionne.
Et on dit voilà, à quel moment finalement on sait que ça retombe comme ça.
Je l'ai pensé à peu près après avoir écrit un tiers du roman. J'avais envie d'une surprise finale. Et je l'ai imaginé petit à petit. Et je pense que c'est parce que je ne l'avais pas en tête au début qu'elle fonctionne vraiment. Parce qu'elle m'a, la dévoile pas à travers des lignes puisque je ne l'avais pas en tête.
Et si vous ratez le dernier chapitre, vous êtes mort.
Eh oui, faut aller jusqu'au bout.
Il faut aller jusqu'au bout. Raphaël Constant, c'est un avocat qui conçoit le droit comme une branche de mathématiques, c'est-à-dire. Ouais. Il n'y a rien de plus opposé, finalement, que les maths et le droit.
Non, je le conçois comme ça.
Souvent, les gens qui font droit, c'est parce qu'ils veulent échapper, à toutes les filières scientifiques matheux.
Sauf que moi, j'ai fait une filière scientifique, je me suis retrouvé en droit un peu par hasard, et les maths ont bien formé mon esprit pour faire du droit. C'est très logique. Le droit, c'est des constructions logiques, c'est des déductions logiques. Ça peut se réduire d'une manière ou d'une autre en équation. Sauf que c'est plus créatif et libre, peut-être pas créatif, mais en tout cas, on est moins enserré que dans les mathématiques parce qu'il y a plusieurs solutions possibles. On peut les créer, les solutions, on peut en inventer. Donc ça va bien à Raphaël Constant, qui est rassuré par la logique
de l'équation.
Voilà, et qui en même temps peut créer, et son esprit en a besoin.
Là, elle est un peu improbable, son équation, puisqu'il faut faire relâcher quelqu'un qui, a priori, ne peut pas l'être. Donc,
il doit faire acquitter quelqu'un qui revendique son crime. Donc, effectivement, ça paraît bizarre.
Voilà, c'est impossible, dès le départ.
Non, parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire. On a acquitté, et je le raconte, l'assassin de Jaurès, qui l'a abattu dans un restaurant de plusieurs balles devant 150 personnes qui revendiquaient son crime lui aussi. On l'a acquitté. On a acquitté Madame Caillot qui un jour est allée au Figaro et a tiré 6 balles dans le directeur de publication du Figaro parce qu'il la mettait au supplice en dévoilant ses correspondances privées. Elle a été acquittée alors qu'elle avait tué et que ce n'était pas contesté. Ça arrive. C'est exceptionnel. Mais ça arrive dans des cas... tout à fait exceptionnel.
À quel moment est-ce que et comment est-ce qu'on élabore une stratégie de défense ? Finalement, vous, c'est vous
en dormant,
quoi,
mangeant,
faites quoi ? Vous fumez des cigares, vous allez faire des footings, vous courez, vous faites du vélo.
Je cours, je fais tout ce que vous avez dit.
La bonne idée, elle vient à quel moment ?
Ah non, c'est une longue maturation en fait. Ces procès-là, on les a en tête pendant des années. Ils vous quittent pas. Et c'est pour ça que je dis qu'on est avocat 24 heures sur 24. À un moment, votre profession s'intègre à votre ADN. Donc vous y pensez tout le temps. C'est dans votre cerveau. Votre cerveau travaille. On continue à trouver les bonnes stratégies et les bonnes options et les solutions pendant parfois un an. Des procès comme les grands procès auxquels j'ai eu la chance de participer, vous les avez en vous en permanence. Donc vos phrases, vos mots, ce que vous allez prononcer pendant la plaidoirie, ils viennent un jour après l'autre. Et votre cerveau, vous avez toujours un logiciel qui tourne quelque part dans votre tête.
En disant l'idée, elle est là.
L'idée, elle est là.
C'est la bonne idée ou le...
Oui, c'est pour ça que parfois, pour les proches des avocats, c'est difficile parce qu'il y a toujours une part de soi qui est un peu ailleurs.
Vous dites pas de...
Dans la salle d'audience.
Pas de sexe avant une audience
Non, c'est effectivement...
C'est vrai ou pas ?
C'est ce que mon mentor m'a appris.
C'est comme les sportifs. À votre mentor, c'est Kejman ?
Bah oui, c'est Kejman.
C'est Georges Kejman.
Oui, oui. Et un jour, je plaidais pour lui, qui était poursuivi en diffamation.
Bien plus tard ayez été son élève. Hein.
Voilà, dans les affaires Bettencourt, il avait été poursuivi en diffamation par Olivier Metzner. Et donc c'était pour moi un procès, on me demandait de défendre le père, donc je ne pouvais rien faire de pire en termes d'angoisse, et en même temps en termes de reconnaissance par quelqu'un qui m'importe plus que tout. Et il m'a appelé la veille en me disant « mais tu te rappelles donc je plaidais pour lui, il m'a rappelé à l'ordre. Non, pas de sexe. Avant les grandes plaidoiries.
C'est ce qu'on dit aux sportifs. C'est ce qu'on dit aux sportifs. Mais sur un procès de 25 jours, comment on fait ?
C'est compliqué.
Est-ce que c'était que pour la première ou alors
Non, sur 25 jours, c'est pas jouable, effectivement. Parce qu'en plus, ces grands procès-là, ça, en termes d'angoisse, vous êtes au top. Or, le sexe fait partie de ce qui soigne les angoisses.
Richard Malka est notre invité, l'invité du Book Club à l'occasion de la publication de son premier roman. Il s'appelle Tyrannie et c'est aux éditions Grasset.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM a lu pour vous cette semaine Tyrannie. C'est un roman, Richard Malka, c'est votre premier roman aux éditions Grasset. À quel genre est-ce qu'il appartient, est-ce que vous êtes posé la question?
Non, je me suis pas posé la question parce que j'aime pas les cases, je crois que je l'ai montré dans ma vie. C'est à la confluence du roman d'aventure, du thriller judiciaire. Et puis il y a un volet un peu plus qui relève un peu plus de la réflexion sur le fond, réflexion politique et philosophique.
Comme on dit, à force de vouloir nous mettre dans un moule, on finit par ressembler à des tartes.
Voilà.
Mais en France, c'est compliqué d'être.
C'est très
compliqué finalement d'être touche à tout.
Oui.
Aujourd'hui, vous dites que, toujours en parlant de votre personnel, hein, Raphaël Constant, qu'un avocat, il doit maîtriser toute la partie communication, répondre à des journalistes, aller sur des plateaux de télévision. Déjà, c'est nouveau.
C'est nouveau, on ne nous l'a pas appris. C'est un métier complètement différent de celui que l'on exerce dans une salle d'audience. On ne parle pas de la même manière, on ne communique pas de la même manière. Et on voit que parfois, pour certains confrères, c'est pas évident. Ils se font piéger et ils dérapent. Donc c'est un autre métier, mais qu'il faut maîtriser quand on participe à des procès médiatiques, parce que ça fait partie du métier, parce qu'on doit aujourd'hui s'adresser à l'opinion publique, parce que ce qui se passe devant l'opinion publique, à un moment, se répercute dans la salle d'audience. Et donc, il faut préparer les choses, ça fait partie du travail que vous devez faire aussi.
Mais est-ce que vous, par exemple, en tant qu'avocat, c'est quelque chose auquel vous prenez plaisir? Comme avocat, hein, je ne parle pas pour venir parler des BD, pour parler d'autres livres.
Il y a toujours un côté égocentrique.
Est-ce que plus je passe à la télévision, plus j'existe, plus je suis un...
C'est le piège dans lequel il faut pas tomber, parce qu'on s'en sort jamais. C'est Sisyphe. Si vous rentrez dans cette recherche de satisfaction à tout prix de l'ego par votre existence médiatique, vous ne pensez plus qu'à ça. Vous n'avez plus de fond. Et c'est tellement... Ça relève tellement de la vanité. En réalité, ça n'existe pas. Mais... Ce serait hypocrite de dire qu'on n'y trouve pas, à un moment, une satisfaction égotique.
On fait partie du jeu.
Faut faire attention à ça. Et j'essaie de faire attention à ça. Alors, j'ai pas trop de mal parce que je tiens beaucoup au secret de la vie. Et donc, je me méfie des médias autant que parfois j'y participe. C'est ambivalent chez moi aussi.
Comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou Le 1995 de George Orwell ou de Orange Mécanique d'Anthony Burgess, votre livre serait une dystopie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est-à-dire que c'est une utopie cauchemardesque. C'est la construction d'un monde au travers de ces lignes que l'on n'aimerait pas avoir.
Donc finalement, vous décrivez une société détestable qui n'est pas très éloignée, enfin, qui est contemporaine de la nôtre,
oui,
finalement.
Oui, elle est pas en très léger anticipation.
Voilà, on n'est pas dans 50 ans.
Oui, puisque Raphaël Constant défend donc quelqu'un qui a échappé à une tyrannie qui se crée quelque part dans le monde au nom de la transparence, de la vertu et de l'humilité, avec une petite dose d'écologie et d'égalité homme-femme. Et j'essaie d'inventer ce que sera la prochaine tyrannie, une espèce de fusion entre de la politique et une nouvelle religion et une philosophie.
Bon, il défend donc Oscar Rima, qui donc n'est pas accusé, mais a assassiné, alors par défaut, pas l'ambassadeur, mais...
Oui, parce qu'il le trouve pas.
Parce que disons qu'il le trouve pas, donc le premier secrétaire de l'ambassade d'un pays que vous avez inventé, qui s'appelle...
L'Astratie.
Voilà. Alors l'Astratie, ça se situe où? C'est à l'Est?
J'ai refusé de le situer, mon éditeur me disait peut-être qu'il faudrait. Non, parce que ça peut être n'importe quel pays du monde. Donc j'ai tenu à ne pas préciser sa position géographique.
Alors ce qui est novateur dans votre livre, c'est que Oscar va choisir son avocat Mm-hmm. Il leur fait passer un casting.
Ouais, vraiment. Absolument.
Voilà, bon, okay. Il prend les meilleurs de la place. Il va choisir avant de commettre son acte.
Ouais. Ça arrive parfois aussi. Il y a un film célèbre. Il sait qu'il va tuer. C'est un projet mûrement réfléchi puisqu'il veut se venger. Et donc, il invente un subterfuge quand il arrive en France en tant que réfugié politique pour choisir son avocat parce que ce qui l'intéresse, c'est pas de se défendre lui-même. En fait, il s'en fout de son sort. Il a déjà tout perdu. Ce qui l'intéresse, c'est évidemment d'avoir une tribune politique, c'est de défendre sa cause. Et il sait que c'est un type d'avocat bien particulier qui peut le défendre. Donc, il sélectionne et il va en voir une dizaine.
Et donc, il dit, ça y est, en premier coup d'œil, Raphaël, c'est le bon.
Ouais, il y a quelque chose qui passe.
Ouais, c'est l'animal.
Mais moi, je crois que c'est comme ça que ça se fait, en fait.
C'est vrai?
Ah ouais.
Qui c'est qui choisit, finalement?
Le regard.
C'est les clients qui choisissent ou c'est l'avocat qui choisit qui va défendre? Parce qu'il est sélectif.
Ça se fait dans les deux sens. D'abord, c'est le client qui vous choisit. Après, vous dites oui ou non. Quand vous êtes dans une position qui vous permet de dire oui ou non, parce qu'on fait appel à vous souvent, donc vous pouvez vous aussi sélectionner vos clients parce qu'ils sont intéressants, parce que ça vaut le coup, parce que ça vous amuse, ou parce que ils ont de l'argent, ou pour plein de raisons différentes. Mais ça se fait. Mais c'est d'abord le client, évidemment, qui choisit. Et heureusement.
Cette société que vous décrivez, elle repose donc, elle a une devise, c'est transparence, vertu, humilité, donc trois piliers qui ont été sélectionnés après enquête, sondage,
oui.
Étude de marché, on va dire.
Étude de marché, exactement.
C'est quelque chose qu'on a reproché à Macron, c'est d'avoir fait une étude de marché de la France et d'avoir vendu aux Français le résultat de l'étude de marché. La politique, c'est comme ça aujourd'hui, finalement.
L'idée pour moi, c'était de pousser un peu plus loin une réalité existante. Elle a effectivement le tyran qui est un génie complètement barge.
Il est barge, hein.
Il est complètement barge, mais il a des raisons de l'être aussi, puisque j'évoque son enfance.
On n'a pas toujours une mère facile.
Et donc il se dit, mais qu'est-ce qu'il va marcher? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut marcher pour créer une nouvelle dictature? Quels sont les bons slogans? Bon, l'égalité, la justice sociale, ça a été déjà utilisé par le communisme, donc ça,
c'est
on
bon.
Laisse ça de côté.
C'est pas le parfum du mois.
Voilà. Et donc, il, au terme effectivement d'une intuition géniale et d'études de sondeurs, il se dit, ça va être transparence, vertu, humilité.
Alors, il a consigné tout ça dans le manuscrit du Juste. Alors, prohibition, par exemple, de la sexualité hors mariage. C'est sanctionné en cas de débauche par la castration chimique, citoyen enregistré 24 heures sur 24. Et il a imposé le cache-visage, donc asexué.
Oui, parce que le cache-visage pour les enfants de 14 à 18 ans, qui portent donc un masque, parce que pour lui, c'est une école de soumission de l'ego à un moment où les adultes sont en formation, au collectif. Et donc c'est une manière d'améliorer l'espèce humaine et ils sont asexués par considération de la nécessité de l'égalité homme-femme. On ne peut pas les reconnaître. Mais ça, c'est le fantasme de toutes les dictatures. C'est faire disparaître les individualités derrière le collectif. C'est le fantasme de tous les dogmes, en fait, qu'ils soient politiques, religieux ou philosophiques. C'est on ne veut pas de singularité et d'individualité. Et il y a chez moi en même temps qu'une reconnaissance, évidemment, de l'apport civilisationnel, compliqué à dire, y compris des religions, une méfiance à l'égard des religions. Et donc, je l'exprime au travers de cette doctrine du tyran Isidore Astry.
D'accord. Le fameux tyran qui aurait pu lire Hassan el-Banna, pourquoi ?
Absolument.
Des frères musulmans,
oui,
vous remerciez à la fin de votre livre, puisque avez...
Je me suis inspiré d'un de ses discours.
Ouais.
Absolument.
Entre autres.
À un moment, le tyran fait un grand discours à son peuple devant une place où un million de personnes attendent sa bonne parole. C'est au moment où... C'est un moment crucial pour Isidore Astry, le tyran, parce qu'il est en train de sombrer dans la folie. Et effectivement, j'ai eu plusieurs sources d'inspiration, dont les discours d'Hassan el-Banna, parce qu'ils sont totalitaires.
Pourquoi la lettre, parmi les sources d'inspiration que vous revendiquez à la fin de votre livre, il y a la lettre à Lamartine de Victor Hugo,
qui est magnifique,
dans laquelle il explique pourquoi il a écrit Les Misérables. Et en quoi est-ce que ça a été une source d'inspiration pour vous ?
Ah, là, c'est purement littéraire. Il y a quelques phrases magnifiques dans cette lettre que vraiment j'incite tout le monde à lire sur la recherche de justice, sur la transcendance. Or, c'est tous les tyrans utilisent ces thèmes-là de la transcendance. En fait, une tyrannie, ça joue sur quoi ? La fondation d'une dictature, ça joue sur quoi ? Ça joue sur le besoin des hommes de croire à plus grand que soi. Le besoin des hommes d'avoir une transcendance et en exploite et certains sont très habiles, qu'ils soient gourous ou politiques ou je ne sais quoi, pour exploiter ce besoin de transcendance, les tyrannies avancent toujours sous l'étendard de grands principes généreux et pour en faire, et au final on a une dictature où plus personne n'a de liberté.
C'est César ou rien.
César ou rien.
Ouais, écoutez Stevie Wonder, pourquoi?
Parce que c'est une chanson gay, que c'est une chanson qui vous dit ne vous en faites pas.
Don't
worry.
Voilà.
Cindy, Mama, you understand that?
Yeah.
Well, like, I don't understand that you can't, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere.
You understand that?
Chévere.
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 Is that right, Mama?
Yeah, because I got my shaking room.
Everybody's got a thing, but some don't know. Reaching out in vain, just thinking that things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it.
retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Richard Malka est l'invité du Book Club. Votre premier roman s'appelle Tyrannie aux éditions Grasset. Richard Malka, est-ce que vous avez compris comment s'imposait une dictature et comment on arrivait à trouver des relais pour les justifier, les diffuser et...
Bah c'est ça qui m'a intéressé, en tout cas dans le volet politique de ce livre. La colonne vertébrale et judiciaire, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais dans le volet politique, ça m'a intéressé. Je voulais comprendre. Et pour comprendre, je me suis intéressé aux dictatures passées, au communisme en particulier, aux absolutismes d'aujourd'hui, qui sont plutôt religieux, et puis pour inventer le dogmatisme de demain. Et en fait, ça commence toujours de la même façon, c'est ce que je vous disais, c'est on parle d'ordre, de sécurité, d'égalité, de justice, on veut rendre l'homme meilleur, on veut créer un monde nouveau, et puis comment c'est possible que ça se finisse toujours en goulag ? Parce que c'est à chaque fois comme ça que ça se passe.
Mais comment vous expliquez que finalement toutes ces dictatures, aujourd'hui avec le recul qu'on a, elles arrivent à trouver des vecteurs de relais
pourquoi
dans les sociétés
Pourquoi alors c'est pas une dictature, attention, mais enfin c'est un populisme. Pourquoi on vote Trump ? Pourquoi on vote Erdogan ? Pourquoi on a voté Hitler ? Et on a voté pour eux. Il s'est trouvé une majorité de personnes qui, parfois de bonne foi, ont voté pour ces personnes-là parce qu'elles promettaient des choses merveilleuses et la transformation de l'homme en quelque chose de meilleur. Et ça, c'est un fantasme qui est en chacun de nous. Et donc en réalité, c'est de nous qu'il faut nous méfier. Dans chacun de nous, il y a l'idée qu'on va parvenir à la pureté. Il y a cette volonté-là, qui est une volonté louable. Sauf que, et c'est ce que je dis dans le livre, à chaque fois quand Athènes a voulu exclure, bannir Dionysos, le dieu du vin, de la luxure, de la cité, eh ben, pour devenir une meilleure démocratie, eh bien, il est revenu sous la forme de Sparte, une société autoritaire. À chaque fois qu'on veut exclure de nous notre part de noirceur, en fait, c'est pas possible et on devient.
Ça nous revient, voilà.
Il vaut mieux la regarder en face, essayer de la civiliser, de la discipliner, d'en faire quelque chose de créatif, mais pas de l'exclure.
Quels sont les monstres, justement, en parlant d'avocat de la défense, quels sont les monstres qui viennent polluer une défense ? À un moment donné, Raphaël se demande s'il n'y a pas un monstre quelque part.
Ah oui, bah oui. Ah bah ça, c'est...
Vous les appelez les monstres, vous, en tant qu'avocat ?
C'est l'angoisse de l'avocat, qu'il n'ait pas vu quelque chose dans le dossier, qu'un événement qu'il n'a pas détecté va lui exploser à la figure pendant le procès, qu'il va se retrouver à pas savoir quoi dire, à pas savoir comment défendre son client, qu'une révélation va être faite dans les médias qu'il n'aura pas anticipé. À chaque moment d'une défense, et là, ça dure 25 jours, un procès peut basculer. Parfois en 10 secondes. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans une salle d'audience. Et donc, on vit effectivement dans la peur, la crainte, l'angoisse d'un événement qu'on n'a pas anticipé et qui va tout foutre en l'air. Votre travail d'une année. Et ça peut se passer en 10 secondes et je l'ai vu. Et ça, c'est l'horreur, évidemment, absolue. Pour le client, mais en fait, le client, on s'en fout. On pense d'abord à soi quand ça arrive. Et on se dit, mais comment on va faire ?
Comment est-ce qu'un avocat, sa vie, ses défaites, d'ailleurs ?
Comment ?
Un avocat vit ses défaites, ouais.
Je pense qu'il y a plusieurs manières de les vivre. Moi, je les ai toujours vécues très mal. C'est-à-dire que les succès, on est content pendant 2 heures.
Ouais.
Et puis les défaites, ça vous suit pendant des années, parfois. Donc, j'ai un côté très fier, donc j'ai du mal à supporter ça. Il a fallu des années pour que je m'y fasse, parce que quand vous êtes avocat, des défaites, vous en avez forcément. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous rappelle à l'humilité en permanence. C'est-à-dire quand on commence à avoir les chevilles qui enflent un peu, bam ! En général, c'est là que vous vous faites étaler, que vous vous prenez un méga râteau, et bon, vous arrêtez de vous prendre pour Dieu.
Là, c'est un procès d'assises et on voit qu'ils cherchent un avocat parmi les membres du jury. Vous arrivez à facilement vous évaluer les membres du jury, vous amusez à les scanner,
comme
dans les séries, vous savez, les séries judiciaires où on évalue les membres du jury.
Alors ça se fait aux États-Unis beaucoup. En France, ça n'existe pas. On ne fait pas avant des enquêtes pour savoir qui est qui.
Mais là, on voit à un moment donné, il...
Oui, mais là, bah,
il se gourre d'ailleurs en plus.
Bah, il se gourre complètement, ouais. Mais on essaie de... d'ailleurs, on a un droit de récusation comme avocat, mais c'est complètement arbitraire. En fait, on voit quelqu'un se lever parce qu'il est femme ou homme ou maigre ou gros ou bah on récuse. On ne sait pas trop pourquoi. C'est juste à l'instinct. Mais oui, on essaie de capter les regards, de se dire en fonction de telle profession, il va juger cela. Mais c'est au petit bonheur la chance. C'est purement intuitif.
Bien, on va parler de couture. Combien de boutons sur une robe d'avocat ?
33, l'âge du Christ.
Ouais, pourquoi ?
Oui, parce que c'est un costume clérical qui remonte au XIIIe siècle.
Mm-hmm. Ah ouais ?
Ah oui. Ah oui, c'est un costume, bah, d'ailleurs c'est très proche de la soutane.
Mm-hmm. Ouais, c'est
il y a juste la petite la bavette en plus.
Ouais. Combien vous avez de robes, vous ? Vous avez une robe fétiche, d'ailleurs?
Oui, j'en ai deux, une très vieille et une un peu plus récente, mais enfin, elles sont toutes les deux élimées.
Mmh.
Oui, oui, on a sa robe fétiche, on a des épingles à nourrice qui remplacent les boutons tombés. C'est notre outil de travail, donc c'est important.
Pourquoi dans les tribunaux, l'accusation est-elle placée plus haut que la défense?
C'est ce qu'on appelle l'erreur c'est une erreur de menuisier. Pour expliquer cette distorsion entre l'accusation et la défense, on a dit que c'était une erreur d'un menuisier qui, étrangement, s'est répercutée dans tous les tribunaux du pays.
C'est QFD. Voilà. Est-ce que votre livre fera l'objet d'un film ?
Il y a des producteurs qui s'y intéressent, mais c'est trop tôt pour vous le dire.
Mm-hmm.
Je ne sais pas encore. C'est un très bon
scénario, finalement.
J'espère.
Est-ce qu'on sait pourquoi 1984 est finalement un livre qui est toujours aussi influent aujourd'hui ?
Parce que c'est universel, parce que ça parle de quelque chose qui... C'est pareil, ça parle de quelque chose qui est en nous, qui est dans la nature humaine. Il y a toujours ce danger, il n'est jamais écarté de tomber dans une société totalitaire.
Vous êtes un homme de l'oral, parce que vous êtes un avocat. À quoi le besoin d'écrire finalement correspond-il chez vous ?
Alors en fait, c'est normal que vous pensiez ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Je pense que chaque personne a un mode d'expression naturel qui est soit l'écrit, soit l'oral. C'est jamais les deux. Pour moi, c'est l'écrit. Je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille. Je prends beaucoup plus de plaisir à écrire qu'à parler. Parler, plaider, pour moi, ça a toujours été une souffrance terrible.
Mais de quel ordre ?
Ah ben c'est physique. J'ai mal au ventre.
Et toujours aujourd'hui, parce que vous racontez la peur. Vous racontez la peur de l'avocat.
Ça pour le coup, c'est vraiment moi. J'ai envie de vomir, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de fuir.
Vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres avocats dans votre roman qui sont pareils.
C'est l'horreur. Et je connais beaucoup de confrères, de grands pénalistes qui réagissent de la même façon. C'est l'horreur. Alors en même temps, cette angoisse-là, je me bourre de médicaments, j'ai des symptômes physiques, je tombe malade. Mais cette angoisse-là est aussi un moteur d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que vous parvenez vous-même à vous transcender et à maîtriser cette parole, alors même que c'est pas là où je suis le plus à l'aise, parce qu'il y a cette angoisse-là. Et donc il y a un travail colossal. Et donc moi, je ne laisse rien au hasard. J'écris tout. D'abord, j'écris.
C'est-à-dire que vous improvisez pas.
Alors si, j'improvise, mais après avoir écrit. Et
vous avez fait vos devoirs avant.
J'ai écrit, mais tout, jusqu'au moindre mot, la moindre virgule de ma plaidoirie. Après, je peux m'en détacher. Je peux improviser.
Mais c'est votre colonne vertébrale.
Ça me rassure, et c'est ma colonne vertébrale. Et j'ai besoin de ça, sinon je ne rentre pas dans la salle d'audience.
Il y a beaucoup de lettres dans votre livre, pourquoi ? Vous aimez bien les lettres ? C'est suranné finalement comme mode d'expression, la lettre aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en écrit plus. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé en écrire dans cet ouvrage. C'est intéressant. J'ai commencé à avoir l'idée d'écrire un roman en écrivant des lettres. Et je me suis dit, tiens, en fait, je vais peut-être laisser tomber la BD et aller au roman en écrivant des lettres. Donc, c'est normal qu'il s'en soit retrouvé. C'est un hommage à ma source d'inspiration.
Bien. Et ça reste, les lettres. Je ne sais pas ce qui restera de nos SMS ou de...
Pas grand-chose.
je ne sais pas quelle sera la nostalgie et la mémoire de ces outils-là, finalement.
C'est le monde qui change.
Tyrannie, donc, c'est votre premier roman. Vous avez eu la petite boule au ventre, comme avant de rentrer dans la...
En le publiant, le jour...
Ouais, le jour où il est sorti, où vous l'avez vu dans la main, là, votre livre.
Bien sûr. Oui, c'est une grande, grande, grande émotion. C'est 3 ans de travail, et puis... c'est le roman, c'est pour moi la discipline phare de la littérature. C'est ce que j'aime. Donc oui, être parvenu, c'est un aboutissement d'un chemin.
Richard Malka, vous êtes venu parler donc de Tyrannie aux éditions Grasset, votre premier roman sur Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et très bon week-end à tous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.